Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, Fugue. Au programme, les républicains prennent le contrôle des salles de classe aux États-Unis. Et le génial Ronnie Burkett de retour à Montréal, cette fois avec Little Willie. Bonne écoute.
Les républicains prennent le contrôle des salles de classe aux États-Unis. Un texte en collaboration spéciale avec le New York Magazine, paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue. Le New York Magazine met en garde contre l'offensive des républicains pour contrôler et censurer l'enseignement aux États-Unis, de la primaire jusqu'à l'université. La salle de classe des républicains. C'est le titre de couverture du New York Magazine où l'on voit une phrase s'égrener au tableau comme une punition. « Je ne dirai pas gay », une allusion à la loi surnommée « Don't say gay », adoptée en 2022 en Floride pour circonscrire l'évocation des questions de genre et d'orientation sexuelle à l'école. Ce texte de loi n'est qu'un des exemples de l'offensive menée par le gouverneur républicain Ron DeSantis, candidat présumé à la Maison-Blanche, sur le terrain éducatif. Et la croisade des républicains ne se limite pas à la Floride. Convaincus que les écoles lavent le cerveau des enfants pour en faire des gauchistes, les conservateurs prennent le contrôle des salles de classe américaines, souligne le magazine. Depuis 3 ans, les parlementaires de 28 États ont adopté au moins 71 propositions de loi pour décider ce qu'enseignants et élèves peuvent dire ou faire à l'école. S'est ensuivie une vague de purges dans les bibliothèques scolaires, de mesures restreignant les sujets étudiés en classe et de potentielles menaces judiciaires visant les professeurs. L'éducation est devenue une obsession pour la droite, souligne le journaliste Jonathan Chait. Dans ce décor, Donald Trump a presque l'air calme quand il fustige les communistes teints en rose qui éduquent nos enfants ou les cinglés et tarés marxistes qui dirigeraient nos universités. Le New York Magazine appelle à prendre au sérieux cette offensive, souvent vue à gauche comme une mise en scène des politiciens républicains à destination de leur base la plus conservatrice. Ils en sont venus à penser, avec le plus grand sérieux, qu'ils doivent et peuvent prendre le contrôle de la teneur idéologique des enseignements dans les écoles, avertit l'auteur de l'article. C'était « Les républicains prennent le contrôle des salles de classe aux États-Unis », un texte du New York Magazine, paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue. Les vedettes font front commun aux États-Unis pour défendre les drag queens. Un texte de Charles Gagné, paru le 10 mai 2023 dans le magazine Fugue. Alors qu'aux États-Unis, les drag queens sont les cibles d'attaques de l'extrême droite et d'adoption de lois limitant leur liberté d'artiste, de nombreuses vedettes américaines prennent la parole et alertent la population sur le climat ambiant de plus en plus LGBT-phobe. La première, celle sur la ligne de front depuis le début, c'est Melissa McCarthy. L'actrice nommée aux Oscars et connue pour ses rôles comiques dans Bridesmaids ou encore Spy, ne perd pas une occasion de soutenir le milieu du drag, un milieu qu'elle connaît bien car ses débuts de stand-up comique se sont faits souvent dans des bars entre deux shows de drag. Alors, quand ses anciennes collègues sont la cible d'attaque, Melissa McCarthy hausse le ton. Sur son compte Instagram en mars dernier, elle partageait un photomontage réunissant des images de films tels que Tootsie, Certains l'aiment chaud et Madame Doubtfire avec la phrase suivante. Vous avez été diverti par le drag toute votre vie. Ne prétendez pas que c'est un problème maintenant. Actuellement en pleine promotion du remake de La Petite Sirène, dans lequel elle campe le rôle de la méchante Ursula, L'actrice est intarissable lorsqu'elle évoque l'inspiration que les dragues ont été pour la construction du rôle de ce film de Disney. J'ai regardé le film original quand j'étais gardienne d'enfants et je savais déjà qu'Ursula était très certainement basée sur Divine. Le maquillage, les cheveux, l'apparence, l'attitude, c'était une évidence pour moi. Et maintenant, on sait que c'est le cas. Ursula est inspirée de Divine. Faisons ainsi référence à la légendaire drag queen Trash, héroïne de la plupart des films de John Waters. Elle continue. J'espère juste avoir rendu toutes les magnifiques drag queens et divine fières. Fin avril, c'est le comédien Kevin Bacon qui prenait position sur ses réseaux sociaux. En ce moment, les artistes drag et la communauté LGBTQIA+, ont besoin de notre aide, écrit-il dans un tweet accompagné d'une vidéo de danse et du hashtag Drag is a right. En février, lors des Oscars, les victorieux réalisateurs d'Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, prenaient eux aussi la parole pour rappeler que le drag n'est une menace pour personne. En mai, la chanteuse lesbienne Hayley Kiyoko a été confrontée à une situation inédite. En tournée depuis plusieurs mois, la jeune femme traverse le pays avec une troupe de danseurs et danseuses qui performent pendant ses concerts, dont deux drag queens. Dans une vidéo Instagram, apparaissant les larmes aux yeux, elle révèle avoir été menacée de poursuites judiciaires à l'approche de son concert à Nashville dans le Tennessee. Ce dernier a en effet récemment fait passer une loi interdisant les représentations drag dans les lieux publics. Je vous rappelle que vous écoutez « Les vedettes font front commun aux États-Unis pour défendre les drag queens », un texte de Charles Gagné, paru le 10 mai 2023 dans le magazine Fugue. Dans la vidéo, elle révèle qu'un policier a assisté à sa séance de vérification de son, lui rappelant que son concert étant ouvert à tous les âges, elle avait interdiction de laisser des drag queens apparaître sur scène. « Je ne veux jamais mettre qui que ce soit dans une position à risque ou en danger, de quelque manière que ce soit, mais où est la ligne d'être réduit au silence? Comment naviguons-nous dans ces menaces et ces lois absurdes contre notre communauté? Comment puis-je faire cela si nous ne sommes pas autorisés à être nous-mêmes, surtout lors d'un concert à prédominance queer? » déclare-t-elle. Finalement, les deux queens sont bien montés sur scène, prévenus des risques mais faisant fi de toute intimidation. Elles n'ont montré aucune peur et ont dit qu'elles voulaient continuer le spectacle et monter sur scène. « Nous ne serons pas réduits au silence. Nous trouverons des moyens de continuer à être nous-mêmes authentiques, quoi qu'il arrive. Nous n'abandonnerons pas », écrit la chanteuse sur Instagram. Les dragues ne sont pas en reste. Parmi les drag queens qui se mobilisent, la reine-mère, RuPaul, s'est exprimée la première. C'est une technique classique de distraction, pour nous éloigner des vrais problèmes pour lesquels ils ont été élus et sur lesquels ils devaient se concentrer. L'emploi, la santé, la protection des enfants du danger dans leurs propres écoles, déclarait en mars la créatrice de Drag Race dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Une déclaration partagée massivement et à laquelle les drag queens les plus connus de son émission n'ont pas tardé à souscrire. Alaska, gagnante iconique du RuPaul's Drag Race, a ainsi déclaré sur Pink News n'avoir jamais pensé qu'on pourrait en arriver là. D'autant plus que nous sommes dans un pays qui a des problèmes bien plus importants. Si vous demandez à l'Américain moyen ce qui l'inquiète du chemin que prend ce pays, je ne pense même pas que le drag fasse partie du top 10. Selon l'association GLAAD, il y a eu plus de 160 manifestations et menaces anti-LGBTQ+, ciblant des événements drag depuis le début de 2022. De leur côté, les républicains font tout pour s'en prendre aux droits des personnes. Fin février, les élus du Tennessee ont voté un texte très controversé qui limite largement les représentations de drag queens dans les lieux publics ou devant des enfants. Programmé en tête d'affiche d'un spectacle drag dans une université de l'Oklahoma, la drag queen Heavy Hodley s'est attiré les foudres de républicains avant même d'avoir pu performer. L'un des législateurs de l'État, Gigi Humphrey, a appelé au licenciement du président de l'université, évoquant une promotion d'un agenda woke et pervers. « Mon existence même est un problème brûlant en ce moment », a réagi l'artiste sur les réseaux sociaux. « Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment peur de comment je m'habille, de qui j'aime et de quelle salle de bain j'utilise, mais surtout parce que les politiciens voient cette peur sociale comme un moyen facile d'énerver leurs électeurs et de gagner un autre mandat. Ils préfèrent contrôler les personnes qu'ils ne comprennent pas au lieu de se concentrer sur les problèmes difficiles et potentiellement mortels qu'ils n'ont pas été en mesure de résoudre. » Le 8 mai dernier se déroulait en direct « Drag Isn't Dangerous », un téléthon pour soutenir le milieu du drag et récolter des fonds. De nombreuses stars américaines ont fait le déplacement pour soutenir l'événement. Melissa McCarthy, Charlize Theron, Elizabeth Banks, Michelle Visage, Idina Menzel et Billy Eichner, pour n'en nommer que quelques-uns, ont répondu présents pour montrer leur soutien. Différentes drag queens ont livré leur récit de vie afin de sensibiliser le public aux problématiques LGBTQ+, puis quelques stars sont venues sur scène pour réaffirmer leur soutien total à la communauté. L'actrice Charlize Theron, mère d'une jeune fille trans, a déclaré avec humour qu'elle montrait en l'air quiconque s'attaquerait aux drag queens. Sarah Silverman, comédienne et humoriste américaine, a quant à elle avoué qu'elle a bien plus confiance en RuPaul qu'en n'importe quel républicain rageux, promettant que s'ils veulent s'en prendre aux drag queens, il faudra d'abord me passer sur le corps. Cette soirée a permis d'amasser plus de 500 000 $ qui serviront à combattre les législations anti-drag. C'était « Les vedettes font front commun aux États-Unis pour défendre les drag queens », un texte de Charles Gagné, paru le 10 mai 2023 dans le magazine Fugue. Le génial Ronnie Burkett, de retour à Montréal, cette fois avec « Little Willie », un texte de Richard Burnett, paru le 1er mai 2023 dans le magazine Fugue. Trésor national canadien et maître marionnettiste, Ronnie Burkett est revenu à Montréal avec son Daisy Theatre, un cabaret de marionnettes débauché pour présenter « Little Willie », une toute nouvelle production basée sur Roméo et Juliette de Shakespeare. Notre collaborateur, Richard Burnett, s'est entretenu avec lui pour Fugue. Le petit garçon gay de Medicine Hat, en Alberta, qui a grandi pour devenir le protégé des légendaires marionnettistes Martin Stevens et Bill Baird, avant de devenir l'un des grands marionnettistes de sa génération, est maintenant aimé du public du monde entier. Burkitt a remporté un Emmy Award en 1979 à 22 ans pour les marionnettes de la série de télé de marionnettes Cinder Rabbit, diffusée sur PBS, avant de former le Ronnie Burkitt Theatre of Marionettes en 1986, à travers de laquelle il a produit des œuvres satiriques destinées à un public adulte. Le reste appartient à l'histoire. Nous nous sommes récemment entretenus avec lui. La bande du Daisy Theatre est de retour avec une toute nouvelle production basée sur Roméo et Juliette. Que peux-tu nous dire sur votre nouveau spectacle? Je pensais que cela honorerait le barde un peu plus que moi. Je travaillais avec une dramaturge, Tanya Jacobs. Je pense qu'elle pensait que ce serait une interprétation assez directe du texte avec ses personnages. Puis, elle est venue voir Little Dickens en décembre dernier et elle a dit « Oh, je comprends maintenant. » La prémisse est que le gang du Daisy Theatre pense qu'il monte la nouvelle comédie musicale All Hands on Deck d'Esmé Massengill à cause des éléments divas vieillissantes et personnages de stars de cinéma. Mais le théâtre, ayant fait de la publicité en lien avec Shakespeare, ils sont plongés dans une panique. Et vous savez, toutes les vieilles dames du Daisy Theatre se disputent le rôle de Juliette. Nous avons aussi fait une marionnette de Shakespeare qui apparaît également dans la pièce. Et le musicien de jazz et conjoint de Ronnie, John Alcorn, a écrit 5 nouvelles chansons pour le spectacle qui sont drôles et assez cochonnes. Vous savez, chaque spectacle du Daisy Theatre commence par un numéro burlesque avec Dolly Wiggler, notre stripteaseuse. John a composé pour elle une musique défeuilleuse de style élisabétain et shakespearien. Comment as-tu géré la période avec la COVID et es-tu soulagé d'être de retour sur scène? Je pense que nous allons tous avoir un syndrome post-traumatique persistant à cause de cela. Je n'aurais jamais pris une année sabbatique. Donc, je l'ai en quelque sorte bien accueilli. Puis, ça s'est transformé en 2 ans et demi. C'était un peu fou. Quand ça a commencé, j'avais eu une année record. J'étais allé en Australie avant de passer 1 mois à Vancouver, puis tout à coup, nous nous sommes retrouvés en confinement et j'ai vu 2 ans de réservation disparaître. Je n'avais aucune idée de ce que serait la réémergence du théâtre. À l'époque de la pause arrêt, il y avait le grand mouvement Black Lives Matter sur George Floyd et toutes ces conversations sur le retard dans le théâtre au niveau de l'inclusivité et la diversité. Et je pensais, eh bien, peut-être que je ne travaillerai plus de toute façon parce que je suis officiellement un vieil homme blanc maintenant. Mais les gens étaient affamés de théâtre en direct et dès que cela a été possible, on a réservé une tournée de 7 villes et j'ai décidé que j'allais faire un autre spectacle, Little Willy, parce que les gens veulent rire. C'était vraiment comme une tournée de retour. Je n'avais pas ressenti ce genre d'enthousiasme de la part d'un public depuis longtemps. Ma référence gay pour les marionnettes était Wayland Flowers et Madame, à propos de qui tu as une belle histoire. J'étais à New York et je travaillais pour Bill Baird. J'avais 19 ans. Je venais tout juste de Medicine Hat. Et 2 marionnettistes avec qui je travaillais étaient amis avec Wayland et m'ont amené dans l'Upper West Side, dans un petit club où il faisait son numéro. Il m'a époustouflé. Je n'avais jamais vu rien de tel. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça avec des marionnettes. Ils m'ont amené dans les coulisses de sa loge pour le saluer et, avant que je puisse dire quoi que ce soit, Wayland m'a juste regardé et a dit « Je ne t'ai pas rimé dans un couloir quelque part. » Je ne savais même pas ce qu'était le rimming. Ça m'a figé. Et que j'ai pas su quoi répondre, bien que je percevais qu'il y avait un double sens, rire. Les gays adorent ta création d'Esmé Massengill, une diva vieillissante, ancienne star de cinéma. D'où vient-elle? Je pense qu'elle est un amalgame de mon amour pour les vieux films d'amour de diva, le cliché du petit garçon gay qui regardait ce genre de film, et avec ce sens général du camp avec lequel j'ai grandi. L'avantage d'être Canadien, c'est que lorsqu'on grandit, on a toute cette influence de la culture américaine, évidemment, mais il y a aussi cette forte influence de la culture britannique, leur comédie et leur sens du camp et du mime. Vous écoutez le génial Ronnie Burkitt de retour à Montréal, cette fois avec Little Willie, un texte de Richard Burnett, paru le 1er mai 2023 dans le magazine Fugue. Comment était-ce de grandir en tant qu'enfant gay à Medicine Hat? Je me suis senti isolé. C'est pourquoi je pense que les marionnettes m'ont sauvé la vie. Pour un enfant solitaire, voici un métier où on n'est pas enfermé dans son propre corps ou sa propre réalité et on peut inventer n'importe quel personnage, le fabriquer et l'interpréter. As-tu pu faire ton coming out à tes parents? Oui, ça a pris du temps. Et bien sûr, ils le savaient déjà. Mon père était joueur de hockey et entraîneur, c'était un sportif, mais c'est lui qui, dès que j'ai commencé à avoir des concerts, chargeait la voiture et me conduisait à ses concerts à $50 quand j'avais 14 ans. Il était donc complice de tout cela. Es-tu un artiste queer ou un artiste qui se trouve être queer? Ah, tu sais, c'est une très bonne question. Et je pense que la réponse dépend à la fois de la personne à qui je parle. Je pense que pour les jeunes artistes queer, il est important qu'ils m'entendent de dire que je suis un artiste queer. J'en suis très conscient. Et j'aime vraiment le mot « queer », tu sais. Donc, si je parle à un jeune créateur de théâtre, à un jeune marionnettiste queer, alors je dis « ouais, je suis un marionnettiste queer ». Comment ton homosexualité influence-t-elle ton travail? Je peux certainement me mettre à la place de personnes qui ne sont pas les bienvenues à table. Je pense aussi que le théâtre est une connexion avec le public au-delà du désir. Même si c'est de la comédie, je pense que nous en avons tous envie, et si on peut exploiter cela avec un personnage, en particulier une marionnette, cela prend vie. Je pense que les personnes queer grandissent avec envie. Surtout quand on doit se taire ou essayer de se fondre dans la masse ou d'être invisible. Le sentiment de nostalgie est très réel pour la communauté queer. Y a-t-il un plafond lavande, une limite pour les LGBTQ dans le monde des marionnettes? Je ne pense pas. Mais j'ai en quelque sorte suivi ma propre route de toute façon. Tu sais, je n'ai pas perdu de vue que pendant toutes ces années, pour la majorité de ma carrière dans les théâtres régionaux, par exemple, j'ai joué principalement pour un public hétérosexuel. C'est un gros vieux homo là-haut avec ses poupées. Le public gay a toujours été là aussi, mais je pense que la vraie percée est venue avec The Daisy Theatre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer beaucoup plus de personnes queer dans le public. Quelles leçons as-tu apprises de tes mentors que tu transmets maintenant aux jeunes marionnettistes? Que si on apprend tôt de bonnes compétences techniques, ce sera notre filet de sécurité pour le reste de notre vie. Depuis combien de temps, toi et ton partenaire de vie, l'auteur-compositeur-interprète de jazz John Alcorn, êtes-vous ensemble? 23 ans. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un dramaturge avec qui je travaillais à l'époque. C'est toujours un peu suicidaire de travailler avec son partenaire. Il nous a fallu un certain temps pour apprendre à comment travailler ensemble et maintenant, nous travaillons très bien ensemble. Les fans se jettent-ils encore aux pieds de Ronnie Burkitt? Nous avons une blague courante. Il y a des artistes comme Danny McIver et d'autres artistes queer qui font saliver tous les jeunes gars de théâtre parce qu'ils veulent faire leur pièce. Alors que tout ce que je reçois, ce sont des femmes d'âge moyen qui m'apportent du pain aux bananes dans les coulisses. Je suis un aimant à femmes. Rire. J'adore tous mes fans. Es-tu impatient de revenir à Montréal parce que nous sommes ravis de te revoir? Je le suis vraiment. Tu sais, Il m'a fallu des années pour arriver au Centaure. Mais la première fois que je suis venu avec The Daisy Theatre, ce fut comme une explosion, du vrai bonheur. Ce fut la même chose pour Little Dickens. J'ai un super public à Montréal. Comment te sens-tu quand les gens disent que tu es une légende vivante parce que tu l'es, Ronnie? Eh bien, j'ai toujours l'impression d'être au milieu de ça, mais je vais te raconter une histoire. Il y a environ 7 ans, j'attendais dans les coulisses pour monter sur scène à Vancouver. C'était un samedi soir, tout le monde était bien habillé et il y avait de l'électricité dans l'air. Je regardais à travers une fente dans le rideau et j'ai eu le trac. Puis, j'ai eu ce moment où j'ai pensé « Attends une minute, Ronnie. Ces gens ont pris leur samedi soir et ont choisi d'être à ton spectacle de marionnettes et ils ont dépensé 65 $ et se sont mis tout beaux pour l'occasion. » Il m'est apparu à ce moment-là que personne dans ce public ne voulait que cela échoue. Pendant les 2 heures suivantes, ces personnes étaient en fait mes meilleurs amis sur la planète. Cela a commencé une histoire d'amour d'un nouveau niveau avec mon public. Et je n'ai rien d'autre qu'une immense gratitude. C'était le génial Ronnie Burkett de retour à Montréal, cette fois avec Little Willie, un texte de Richard Burnett, paru le 1er mai 2023 dans le magazine Fugue.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.usevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.